Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On your marks.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par 6 médailles tricolores, oui, 6, une en or pour les judokas en relais mixte par équipe, 4 en argent pour Charline Picon, Thomas Goyard en RSX, pour le rugby à 7 féminin, pour les sabreuses, et une médaille de bronze en triathlon en relais mixte. Waouh, rien que ça. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Maxime Dupuis et Laurent Vergne sont à mes côtés. Salut les gars.
Salut.
Non, salut Adrien.
Ça vous a impressionné, hein? Ça vous a impressionné cette liste? 6 médailles, c'est beau quand même.
Ouais, mais c'est parce que t'es revenu, ça, je pense.
Ah, bien sûr, je suis un peu le porte-bonheur.
En plus d'un excellent joueur de bon tant pis, parce que je le répète, c'est Adrien qui joue l'intro de cette émission.
Ah, et d'un excellent skater.
Au clavier.
Exactement. Bon, allez, fini, trêve de plaisanterie. Nous débuterons évidemment avec la belle médaille d'or en judo. C'est l'événement du jour. On en parlera avec notre consultant Fred Le Canu. Puis nous recevrons Isaora Tibus, médaillée d'argent du fleuret par équipe il y a quelques jours. Elle nous parlera de sa breloque qui pèse, vous verrez. Enfin, les premiers frissons dans le stade olympique ont eu lieu avec la finale du 100 mètres féminin et les séries du 100 mètres masculin. L'heure olympique, c'est parti. L'événement du jour, c'est évidemment la médaille d'or de la France lors de l'épreuve mixte par équipe. Et pour en parler, on accueille Raphaël Brosse, notre journaliste spécialiste du judo, et notre consultant Fred Le Canu. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Salut tout le monde.
Bon alors, vous avez vibré autant que nous. J'imagine Fred, oui, c'est toi qui as commenté. Tu nous as fait vibrer d'ailleurs. Et est-ce que tu as vibré toi aussi?
Ah bah forcément, c'est un moment d'anthologie. Et il y a déjà 10 milliards d'histoires à raconter. Déjà la première, la plus grande pour dire que oui, ça fait vibrer, c'est qu'il y a 57 ans, Anton Gezing, qui a été le premier non-asiatique à devenir champion olympique dans le même temple, dans le même endroit. Et le peuple japonais a pleuré. Et aujourd'hui, alors c'est que du sport, hein, faut pas, voilà, mais il pleure aussi parce qu'il s'est passé quelque chose de grand et l'équipe de France a été extraordinaire. Ouais. Si tu ne vibres pas aujourd'hui, tu ne vibres jamais. Hein.
Ouais, c'est sûr. Cette épreuve hein, qui était nouvelle hein, au programme olympique, on a senti une vraie ferveur, quelque chose d'incroyable qui se crée. Raphaël, c'est aussi ton sentiment?
Oui, bah, c'est la beauté de ces sports qui, à la base, sont plutôt individuels, ces sports de combat, et qui, une fois que chacun sont au service du collectif, ont pour effet de transcender les combattants. En l'occurrence, on a vu voilà, certains d'entre eux, je pense notamment peut-être à Guillaume Chen ou Axel Ferger, qui n'ont pas fait le tournoi qu'ils espéraient en individuel, montrer un visage extrêmement conquérant, notamment en finale pour Axel Ferger. Il y avait un esprit de corps, hein, on voyait d'ailleurs au bord du tapis les autres combattants, ceux qui attendaient leur tour, encourager, pousser leurs coéquipiers. C'était vraiment, voilà, c'est ce qui fait la beauté de ce genre d'épreuve. Je pense que ça aura séduit beaucoup de monde. Bon, bah, le comité olympique qui a opté pour cette épreuve mixte, il y avait une vraie ferveur et c'était vraiment superbe. Et moi, je tiens à rendre hommage à notre autre consultante, Frédéric Jossinet, qui ici même, il y a quelques jours, et même encore tout à l'heure quand je l'ai croisé à la buvette, m'a dit « j'y crois vraiment à cette médaille d'or ». Moi, j'étais un peu plus sceptique, parce que bon, le Japon est quand même extrêmement redoutable dans cette épreuve, mais voilà, effectivement, superbe exploit des Français.
Ouais, il y a eu surtout du suspense parce que en quart de finale contre Israël, c'était chaud quand même. La France s'en sort 4-3 avec voilà un deuxième combat pour notre combattante qui avait déjà fait un golden score juste avant. Finalement, elle s'en sort. Vous allez me rappeler son prénom.
Margot Pinault.
Margot Pinault, voilà, je l'avais plus. Ça a été chaud. Elle aurait pu s'arrêter là et puis finalement, on a senti que voilà, ils ont sorti les tripes quoi.
Ouais, il y avait c'est vrai une super équipe de France. Alors après. La France, c'est vraiment une culture d'équipe quand même. Hein. On a déjà été champion du monde par équipe. Il y a eu des universiades, des champions du monde universitaires, militaires qu'on a déjà remportés. Cette médaille aujourd'hui, elle s'assoit sur quelque chose qui est acquis depuis longtemps. Il faut juste rappeler, quand on parle un peu du passé, qu'en 1994, il y a eu les premiers championnats du monde par équipe. Ils ont été organisés en France, à Coubertin, et c'est la France qui les avait remportés déjà à l'époque. Les premiers championnats du monde, c'est les Français. Les premiers Jeux Olympiques, c'est les Français. On a une culture d'équipe, on a une culture de ces moments-là. Donc, même s'il ne faut surtout pas fanfaronner, parce que maintenant, c'est fait, mais moi, je n'étais pas hyper inquiet. Quoi. C'est-à-dire que quand Margot, ça ressort, sur le coup, tu te dis « Aïe, ouais, la catégorie des 70, c'est celle où on a perdu. » Mais quand tu connais la qualité intrinsèque de Margot et quand tu sais ce que c'est d'avoir Teddy Riner ou Clarisse Agbayenou qui te tape dans le dos, qui te dit « Je compte sur toi », ça, on a souvent vécu ces passages-là. On a déjà vécu des duels comme ça, vraiment, où c'était le cut. Quoi, et on passe souvent. Hein, on a une expérience qui passe les générations.
On a vu, pareil, cette transmission. J'ai l'image, moi, de Teddy Riner en finale, quand il sort de son combat. Donc, la France mène 3-1. Il reste un point à marquer. Il sort. Il prend entre ses mains Sarah Léonie Cizik pour lui dire, vas-y, c'est à toi. C'est à toi. C'est toi qui vas nous apporter ce point décisif. Il y a une transmission. Il y a quelque chose hyper fort, Raphaël.
Oui, bah, c'est clair. En plus, Teddy Riner joue un petit peu le rôle de papa de cette équipe. C'était le leader, bon, bien sûr, de par son palmarès, son prestige, mais aussi en raison de son âge. Et bah, il a vraiment guidé cette équipe. Mais franchement, tout le monde a été à un excellent niveau, pour vraiment le souligner. Et tiens, j'avais d'ailleurs une question pour Fred par rapport à Teddy Riner. On a vu que les Japonais avaient décidé non pas d'aligner Arazawa, mais Aaron Wolf dans la catégorie des plus de 80 kilos. Est-ce que tu penses que c'était parce qu'ils étaient circonspects vis-à-vis d'Arazawa en raison de ses performances d'hier, ou qu'ils voulaient vraiment tenter de déstabiliser un petit peu Teddy avec un profil un peu plus léger, plus petit?
Bah, tu as raison sur les deux. C'est-à-dire qu'en fait, Arazawa, il passe à côté, et donc tu sais qu'Arazawa, il est pas capable de le battre. Mmh. Voilà, tu le prouves scientifiquement avec ce qui s'est passé hier. Et en fait, il y a des combats comme ça où il faut créer l'incertitude. Tu vois, c'est le cas avec Clarisse, parce que tu parlais de Fred qui avait un peu été prémonitoire sur la victoire. Nous, on avait été aussi un peu prémonitoire sur la conception de l'équipe de France, même si on ne l'a pas demandé aux entraîneurs, parce qu'il faut rester à notre place. Et voilà, on est là aussi pour que les secrets soient gardés. Mais Clarisse, on en était persuadé. C'est-à-dire qu'il y a Clarisse contre Arai pour créer l'incertitude. C'est-à-dire, c'est pas parce que Margot, elle est dans le dur qu'elle sort. C'est parce qu'en fait, il faut battre Arai. Et pour battre Arai, Clarisse, qui est championne olympique, c'est idoine, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, Wolf, c'est pareil. Tu sais qu'avec Arazawa, ce n'est pas possible, il n'est pas capable, il n'a pas les ressources. Bah, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est créer de l'incertitude. Quand tu as Wolf Riner, tu te dis c'est un moins de 100, il est champion olympique, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est tu ne sais pas ce qui va se passer qui va créer de l'espoir. Avec Arazawa, il n'y avait aucun espoir.
Quand on se retourne un petit peu maintenant sur le palmarès de l'épreuve de judo dans sa globalité sur ces Jeux Olympiques, on a quand même Clarisse, double médaillée olympique, Teddy qui ramène deux médailles, la délégation qui finalement termine sur une bonne note. Est-ce que vous en tirez un bilan au global positif?
Je te laisse, Fred, répondre à cette question. Pour moi, il est très positif, même si on aurait peut-être aimé un ou deux titres supplémentaires, si ce n'est plus en étant gourmand, mais je vais laisser Fred au soin de tirer le bilan.
Bah, sur le bilan comptable, on est à 7 médailles, c'est la même chose qu'en 92, c'est la même chose qu'en 2012. Sauf qu'en 92, il y avait 3 titres, et en 2012, il y en avait 2. Donc, si tu veux, c'est un bilan comptable qui est extraordinaire parce qu'on égale le record. Par contre, il est un petit peu moins doré que ce qu'on a fait par le passé. Après, sur des bilans comme ça, tu peux toujours dire... Tu peux dire certaines choses, et voilà, il y a de très belles choses, il y a de l'espoir, il y a une génération 2024 qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi une génération vieillissante pour qui ça va être dur et qu'il va falloir commencer gentiment à mettre en concurrence avec de la jeunesse, qu'il va peut-être falloir créer cette jeunesse parce que bah, dans certaines catégories, il n'y a pas beaucoup de monde derrière qui pousse. Donc voilà, il y a plein de choses à remettre en question. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est un très bon bilan, bien sûr. Je trouve que symboliquement, on a vu des grandes choses. Tu vois, la défaite de Teddy et cette capacité à aller chercher la médaille de bronze, c'est quand même. Voilà, il a commencé comme ça à Pékin, on l'attendait champion olympique, il a su trouver les ressources pour être troisième. Et là, la boucle est bouclée, il a l'humilité, il a la volonté et les ressources pour ses gamins, surtout aussi, parce qu'on connaît l'histoire, de montrer. Donc, il y a des choses merveilleuses. Clarisse, c'est extraordinaire. Roman Dico, Sarah Cizik, il y a de très, très grandes choses. Il y a aussi des points améliorés, forcément, parce que, voilà, on parle de Teddy. Si Teddy, il est là encore aujourd'hui à ce niveau-là, c'est que même dans la victoire, il s'est remis en question. Donc, il faut tout de suite qu'on se remette en question. Il y a des très grandes choses qu'il faut conserver. Et puis, il y a des choses voilà, sur lesquelles il va falloir travailler. Et puis, il y a aussi des choses, peut-être, que vous ne voyez pas, qui sont au-delà du sportif. Mais maintenant, aussi, l'enjeu, c'est que cette réussite du sport français, du judo français en particulier, c'est qu'on puisse l'exploiter pour la mettre au service de nos citoyens, parce que la rentrée arrive, on sort de deux années très difficiles, tout n'est pas encore réglé d'un point de vue sanitaire, et le judo français a besoin de judoka. Et toutes les fédérations, vous savez, c'est fragile, hein, surtout les fédérations sport de combat, parce qu'on a été extrêmement éloigné de la pratique. Donc, cette espèce de pépite, de joyau, de moment d'anthologie qu'on a créé sportivement, il faut qu'on trouve maintenant tous les couloirs possibles pour leur rendre accessible aux citoyens, pour donner accès au dojo, dans cette perspective de Paris 2024 qui va dynamiser tout ça, j'espère.
En tout cas, sur les tatamis, nos athlètes ont fait le boulot, comme on dit, et j'imagine qu'ils ont donné envie à des jeunes et des moins jeunes de se mettre au judo à la rentrée. En tout cas, on l'espère. Merci, messieurs, pour cette analyse précieuse.
C'est déjà fini.
Oui, tu voudrais encore continuer.
Il y a tellement de trucs à dire.
Évidemment, on pourrait parler, rester des heures, mais ça s'appellerait le podcast judo. Là, on est sur l'Euro Olympique et on va passer sur une autre séquence. Salut, messieurs, merci.
C'est une très bonne idée.
Dans notre séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui, et c'est un privilège, Isaora Tibus. C'est la première médaillée qu'on reçoit dans le podcast, et on ne va pas se cacher, ça nous fait extrêmement plaisir, comme je le disais. Salut Isaora.
Coucou à tous, je suis hyper contente d'être là.
Nous, écoute, on est très très heureux de te recevoir. Médaillée d'argent au fleuret par équipe avec, on va citer aussi tes coéquipières, hein, Anita Blaze, Pauline Ranvier et Astrid Guyard. Alors nous, je disais, c'est le premier médaillé qu'on reçoit dans le podcast. Elles sont comment les médailles? On dit qu'elles sont lourdes, c'est vrai?
Elles sont plutôt lourdes. Franchement, ouais, il faudrait que je la pèse. Et elles sont trop trop belles. Et il y a l'inscription aussi de son sport et juste en dessous. Donc pour l'instant, elle n'a pas eu une égratignure. Je sais que Pauline a déjà écorché la sienne. Donc je vais essayer de la préserver. Non, elle est trop belle, je suis trop contente.
Depuis que vous l'avez eue autour du cou pour la première fois, vous ne l'avez pas quittée, j'imagine.
J'ai dormi avec, je me suis touchée avec. Non, si, on l'a quand même quittée. Et puis ce que j'aime bien, c'est aussi la passer aux autres, la voir. Enfin, quand ils la voient et qu'ils la prennent dans leurs mains et tout, c'est un peu partager la victoire avec eux. Donc elle a déjà passé pas mal de mains.
Ça fait pas un surplus bagage dans l'avion, ça, avec le poids que ça pèse?
Ah non, je la mets pas, je la garde dans mon sac à dos.
Ouais. Tu la mets pas en soute, ouais.
Ah ouais, non, celle-là.
Je la mets pas en soute, c'est mort.
Donc on le rappelle, hein, cette finale malheureusement perdue face à la Russie assez nettement. À l'issue de la finale, tu as déclaré avec le recul, on saura savourer cette médaille. Est-ce que c'est le cas désormais?
Oui, parce que bon, forcément sur le moment on est déçu et on se dit qu'on aurait pu faire mieux. On n'a pas pu s'exprimer complètement et on aurait pu, je pense, avoir un combat un peu plus serré en tout cas et leur donner plus de difficultés. Par contre, c'est très difficile d'avoir une médaille. Moi, je pars de ce principe-là. C'est très difficile d'aller au jeu et de décrocher une médaille. Donc, j'étais très, très fière de ce que les filles ont fourni comme effort. On sortait vraiment de loin en demi-finale. Donc, on a été arracher cette médaille et y a beaucoup de fierté à l'avoir. Et je suis très privilégiée d'être médaillée olympique.
Maxime, Laurent.
Oui, Isaora, on a déjà beaucoup parlé, nous, dans le podcast de l'escrime, évidemment, tout au long de la semaine, et notamment de vous, les filles du fleuret. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire à quel point j'étais très heureux que vous ayez, j'allais dire, enfin décroché une médaille. Il faut le rappeler, c'est dans votre arme la première depuis 1984 à Los Angeles. Et moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, toi qui es dans cette équipe depuis quelques années maintenant, est-ce que cette image que le fleuret féminin a un peu traîné pendant quelques années de maillon faible de l'équipe de France, est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé? Moi, je sais que j'ai le souvenir d'une interview avec Astrid Guyard avant les Jeux de Londres qui était très agacée par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a pesé ou même qui flottait même de manière un peu inconsciente comme ça sur le groupe, ou est-ce que avec les médailles que vous avez eues, notamment au championnat du monde, plusieurs fois par équipe, parce que si c'est la première au jeu, c'est pas la première pour ce groupe, ou vous aviez déjà complètement évacué ça, vous, depuis longtemps?
Je pense que quand on arrive dans un sport, il y a un héritage, il y a une histoire avant nous, que du coup, dont on apprend, on s'approprie les codes et on essaye d'en défaire un peu ce qu'il en est. Astrid, elle est là avant moi, donc elle a vraiment vécu ça, où c'était très difficile, où les conditions étaient complètement différentes pour le fleuret féminin, elles étaient vraiment sous-estimées, elles n'avaient pas les mêmes opportunités, les mêmes moyens pour y arriver, les mêmes coachs, et puis même dans la mentalité, elles étaient vraiment très mal perçues. Donc je suis arrivée à ce moment-là, en 2009, dans une équipe qui était quand même psychologiquement déjà atteinte par, par tous ces, enfin, ces préconçus qu'elle traînait et ses bagages qu'elle traînait. Donc, il a fallu faire un gros travail, je pense, un gros travail pour construire cette équipe d'aujourd'hui. On en discute des fois aussi avec Pauline. Elle est arrivée des années un peu plus tard où elle n'a pas connu ça. Et justement, elle a connu une équipe déjà qui véhiculait de l'espoir, puisque à Londres, on n'était pas censé se qualifier quand moi, je rentre dans l'équipe. Et il y avait très, très peu de chances de se qualifier. On se qualifie sur la dernière épreuve qualificative. Donc, c'était très dur. Et ça, je pense que ça envoie un message fort aux générations d'après en disant que c'est possible de se qualifier. Donc quand Pauline elle arrive, elle se dit pas c'est impossible de se qualifier par l'équipe, elle se dit moi je peux me qualifier et je peux aller chercher une médaille. Et du coup entre Rio et maintenant Tokyo, ce qu'on a vraiment vraiment travaillé, c'est aller chercher cette confiance, aller créer un collectif. Donc c'est avec les filles, mais c'est avec le staff, c'est avec tous ceux qui nous entourent, la fédération qui a commencé à croire en nous. Donc on a fait nos preuves, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas d'arriver sur les Jeux Olympiques et de pouvoir obtenir ce pour quoi on est venu, ce pour quoi on s'est battu et ce qu'on mérite, en fait, parce qu'on a été à un moment donné numéro une mondiale, mais il fallait le montrer sur le jour J, et on l'a fait, et ça, c'est aussi difficile. Donc une grosse histoire du fleuret féminin. Il y a plein d'athlètes qui ont été magnifiques et qui n'ont pas eu cette médaille, mais elles ont toutes contribué, en tout cas, à faire en sorte que notre arme, elle progresse et qu'elle en est là aujourd'hui.
Vas-y. Juste le fait que Astrid soit rentrée en finale, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est décidé?
Oui.
Est-ce que c'était vraiment tactique par rapport à cette finale, ou est-ce que vous teniez absolument à ce que Astrid ait sa médaille? Parce qu'il faut le rappeler, les remplaçantes officiellement n'ont pas le droit, si elles ne tirent pas, si elles ne rentrent pas, d'avoir une médaille.
Oui, c'est ça, c'est bon de le préciser, parce que ce n'est pas le cas dans tous les sports.
Oui.
Et surtout, ce n'est pas le cas dans notre sport en général. Donc, la seule compétition où on a ce cas de figure, c'est les Jeux Olympiques. Donc, on a beaucoup, beaucoup discuté sur ce qu'on allait faire. Parce que pour nous toutes, Astrid fait partie à part entière de l'équipe, et on voulait partager, quel que soit le résultat, ce moment avec elle. Donc, on avait parlé de plusieurs scénarios. Donc si on est en finale par exemple, si on mène, si on est mené large, si le score est serré, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe. Sur le moment de la finale, on s'était aussi dit que c'était au coach de prendre la décision et pas à nous, parce qu'on ne peut pas penser à tout ça pendant que nous on se donne et qu'on est dans la performance sur le moment. Mais quand Astrid rentre sur la piste, nous on lui fait entièrement confiance, on est avec elle quelle que soit l'issue de ce relais, et pouvoir être à quatre sur le podium, c'est assez spécial. Ça aurait été différent si on avait été à trois et qu'on n'aurait pas pu partager ce moment, parce qu'elle a contribué beaucoup à faire en sorte qu'on en soit là aujourd'hui.
Alors, moi, je voulais revenir sur un autre moment fort de cette journée-là. Évidemment, la demi-finale, c'était très, très mal embarqué. Vous êtes mené 24-12, si je ne m'abuse. Je veux savoir, qu'est-ce qui passe dans vos têtes à ce moment-là? Comment on se remet d'aplomb, parce qu'il y a 12 touches d'écart? Et puis, que vous nous racontiez aussi la toute fin de cette demi-finale.
Alors, c'est vrai qu'on entame mal le match. Et il y a un moment donné dans le match où je vois les filles baisser la tête, un peu en se disant, on passe à côté. Et à ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est pas qu'on peut remonter ou qu'on peut gagner ou quoi que ce soit. Ce que je me dis, c'est que c'est hors de question qu'on sorte de ce match-là et qu'on ne soit pas battu et qu'on n'y ait pas cru jusqu'au bout. Et c'est ce que je dis aux filles sur le banc. Je regarde aussi l'ordre des matchs et je réalise les relais qui vont suivre, et je me dis que c'est vraiment, vraiment possible, parce que c'est un peu spécifique, mais en gros je savais que sur les filles avaient des clés sur les filles qu'elles allaient rencontrer sur les derniers relais, et que moi sur Ariana sur le dernier relais, si on remontait, je pouvais faire la différence. Donc j'insuffle une première dynamique où je gagne un match où on est en positif, et là Pauline elle fait un magnifique relais avec une énergie qui fait basculer le match, en fait, psychologiquement, là où on leur envoie le signal que non, c'est pas fini, on est toujours présente, et là où elles commencent à douter, à se dire « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Elles veulent continuer à se battre alors qu'on mène. Et en fait, il y a un grain de sable qui rentre dans la machine et qui change un peu cette dynamique de match, et on l'a saisi. Voilà, on a saisi ce moment, on a saisi cette dynamique. Anita, elle rentre après. Alors, à un moment donné, elle recolle au sport. Gros signal également, même si elle perd son match, ça voulait dire que voilà, on est toutes là, on est toutes présentes. Et moi, sur mon dernier match, elles avaient fait le taf avant et je voulais le faire pour elles. Je voulais le faire aussi pour moi parce que j'ai été déçue des individuels. Il y avait plein de choses, plein d'émotions qui se mélangeaient en même temps. À Rio, je n'ai pas eu la chance d'avoir les équipes après mon épreuve individuelle. Et je m'étais promis que le jour où on allait les équipes à Tokyo, je donnerais vraiment tout pour qu'on ait cette médaille. Et après, je fais le vide, je rentre sur la piste. Et voilà, j'ai regardé le match à nouveau hier soir parce que je ne me souvenais pas de tout, en fait. J'étais un peu dans cette zone où... voilà, j'étais vraiment à fond dans le match. Et puis, je vois aussi mes yeux à la fin du match sur la dernière touche. Psychopathe. Mais oui, j'ai cru sur chaque touche. Et aussi, dans le match, j'ai senti que j'avais trouvé la solution et qu'elle doutait beaucoup. Donc voilà, j'entendais énormément de cris. Je crois que j'ai entendu toutes les personnes qui nous ont encouragés. Il y avait les gars, il y avait mon copain qui est américain et qui était là. Il y avait les coachs, il y avait les filles. Voilà, je me sentais portée. Et je suis très, très contente du résultat de ce match-là.
Est-ce que tu peux juste nous dire, pour finir, un petit mot sur l'état d'esprit de cette équipe de France d'escrime ? Parce qu'on a vu beaucoup d'images, justement. Je crois que c'est notamment Manon Brunet, quand elle a eu sa médaille de bronze, on a vu les épéistes, les fleurettistes, je crois, les garçons, qui tiraient le même jour, qui n'avaient pas eu de médaille, qui étaient déçus, certainement, de leur compétition. Mais ils ont été les premiers, avec tout le staff, à venir pour la féliciter. On dit parfois le groupe vit bien dans d'autres sports en rigolant un peu. On a l'impression que c'est vraiment le cas dans cette équipe de France d'escrime. C'est un vrai groupe.
C'est un vrai groupe. C'est un vrai groupe. Il y a une vraie âme dans cette équipe. J'ai fait plusieurs générations, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, en fait, on est tous soudés, quelle que soit l'arme. Je me suis réveillée ce matin pour voir les sabreuses tirer. Elles nous ont regardées. Les garçons étaient là pour nous aussi. Il n'y a pas de public à Tokyo cette année. Et je pense que être là les uns pour les autres, ça nous a donné la force d'y arriver. J'ai aussi vécu un moment des Jeux à Londres où on a eu zéro médaille et que c'était très dur pour un collectif et qu'on s'est reconstruit tous ensemble. On s'entraîne tous ensemble à l'INSEP. On a fait un stage avant les Jeux Olympiques à Nishikatsura. On a vraiment créé cette cohésion. On s'entend tous bien, on veut tous qu'on réussisse les uns les autres et on vit à travers les performances des autres. Et aussi, on est là quand ça ne marche pas aussi. Je pense à Yannick Borel qui est passé peut-être à côté de ses jeux en termes de performance, mais qui pour moi est l'escrimeur français que je respecte le plus et que j'admire le plus et qui sera toujours notre champion. Donc voilà, on est tous ensemble. C'est aussi c'était ça notre guerre aussi pour le fleuret féminin dans notre équipe. C'est on est tous ensemble, toujours et jusqu'au bout.
Votre podium a parfaitement illustré ça, les images sur le podium, les médailles, la remise entre vous. C'était un formidable moment de communion.
Oui. Voilà, émotion intense. C'est aussi à ce moment-là qu'on réalise un petit peu ce qu'on a fait. J'ai eu la chance de pouvoir remettre la médaille aux filles. À cause du Covid, on ne pouvait pas que quelqu'un nous remette la médaille. Et je ne l'avais jamais fait avant. Et j'avoue que leur remettre cette médaille, ça signifiait tellement pour moi. Je l'ai dit aussi dans une autre interview. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de mots à ce moment-là. Elles savaient tout ce que je voulais leur dire à chacune, un message tellement personnel et tellement intense. J'ai pas eu besoin de mots. Je les ai serrées dans mes bras. On s'est enlacées toutes. Elles m'ont aussi à trois remis ma médaille. J'ai toujours eu à cœur d'être un leader pour cette équipe et d'être là pour elles et de montrer qu'elles pouvaient me faire confiance. Donc, moment intense, vraiment, je l'oublierai pas.
On le sentait, effectivement, même nous, derrière nos télés. C'était un super moment. Merci, Isaora, d'être passée dans l'heure olympique.
Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir de t'avoir et on te souhaite le meilleur pour la suite. Salut.
Salut, merci d'avoir
reçu. Bravo.
Et bravo. Bye.
Un triplé jamaïcain pour conclure cette journée d'athlétisme et la victoire d'Hélène Thompson. Messieurs, depuis 2008, c'est simple, les Jamaïcaines se partagent les médailles d'or, deux fois Fraser Price et désormais deux fois Hélène Thompson. Impressionnante, ces Jamaïcaines.
Oui, impressionnante. Bah, on se doutait que la victoire reviendrait à une Jamaïcaine. On pensait plus à Fraser Price, mais en effet, Hélène Thompson a réussi, non pas la course de sa vie, puisqu'elle est déjà championne olympique du 100 mètres et du 200, mais elle a réussi une course formidable et j'ai l'impression que c'était elle la plus relâchée, tout simplement. Quand on voit la course de Fraser Price, on sent tout l'inverse de ce qu'on avait vu en demi-finale, c'est-à-dire 10-73 avec une ligne droite, mais vraiment dans un fauteuil, dans des chaussons. Et là, elle parle mieux, c'est pas ça, c'est pas une surprise que son adversaire, mais Thompson revient petit à petit. On va dire qu'au 20-30 mètres, elle est devant. Fraser Price s'accroche, mais ne revient pas derrière. Et on la sent à la fin se crisper. La course est devenue difficile pour elle. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est un triplé jamaïcain, encore un. Shericka Jackson qui prend la troisième place. Elle est descendue du 400 mètres, elle. Elle réussit ça sur 100 mètres, donc c'est assez formidable. On va dire que ce n'est pas une surprise, la couleur du maillot qui est sur le podium. C'est peut-être plus une surprise de ne pas voir Fraser Price décrocher le troisième titre sur 100 mètres qui aurait fait d'elle l'unique à trois titres sur 100 mètres. Ça aurait été légendaire. Là, c'est pas mal parce qu'on a une quatrième femme à deux titres.
10-61, hein, record olympique pour Hélène Thompson. On a eu un petit doute, hein, d'ailleurs, dans la rédaction, savoir si elle avait vraiment battu le record olympique ou pas. Ça va de plus en plus vite. C'est ses chaussures, c'est quoi ?
C'est tout. C'est tout. C'est les filles, évidemment. Alors, ce qui est étonnant, il faut le dire, il y a un vent défavorable de 0,6 mètres par seconde. Donc, dans ces conditions-là, c'est exceptionnel. Et en effet, on s'est posé la question du record olympique puisque Griffith Joyner avait couru en 10,54 à Séoul en 88, sauf que le vent était de 3 mètres et la limite est à 2 mètres. Donc oui, il y a un peu tout. Il y a une finale olympique. Déjà, une finale olympique, par essence, ça va très vite parce que vous êtes les meilleurs du monde, c'est à la bagarre, donc il faut aller très vite.
Et là, c'est vrai qu'elle devient quand même la deuxième meilleure performeuse de tous les temps, ouais, derrière Griffith Joyner. Peut-être la piste aussi, on en saura plus dans les prochains jours. Peut-être que cette piste est très rapide. C'est un peu tôt encore pour tirer des conclusions définitives là-dessus, mais c'est une piste à suivre.
Ouais, très très bon.
Et malgré l'absence de public, parce qu'on
et je le redis pour les chaussures. Et les chaussures, évidemment, puisque c'est la grande révolution. World Athletics a tenté de limiter un peu ce qui se faisait via Nike, notamment New Balance, etc., pour ne pas les citer. Mais maintenant, les athlètes sont vraiment posés sur des portées par des ressorts, on va dire. Ça a commencé par le fond. On a vu des perfs sur route qui étaient exceptionnelles. Et maintenant, c'est en train d'arriver sur le sprint et sur les sauts. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les temps dégringolent ainsi. Et c'est vrai que ce chrono-là, aujourd'hui, il est tout bonnement exceptionnel.
Très bien, messieurs, on va passer sur le 100 mètres masculin dans notre partie, l'affiche du jour. L'affiche du jour, dimanche, c'est donc les demi-finales et la finale du 100 mètres masculin. C'est évidemment le moment que nous attendons tous lors des Jeux Olympiques. Déjà, lors des séries, on a eu des premières indications sur les états de forme des uns et des autres. Ce n'est pas forcément ceux qu'on attendait qui ont réalisé les meilleurs temps, et au contraire, pour ne pas citer Trevon Bromell, l'Américain qui était ultra favori en arrivant, il n'a signé que le 12e temps. Il est passé au temps, d'ailleurs. Vous êtes surpris, messieurs, de ces séries ?
Je pense que ça en dit pas forcément long sur l'état de forme, mais sur l'état de tension des uns et des autres. Pour moi, vraiment, c'est l'inconnu total, ce 100 mètres. On est donc dans le premier 100 mètres au JO de l'ère post-Usain Bolt, donc forcément il y a une place à prendre et il y a beaucoup de candidats, et je pense que Bromell, il est favori parce qu'il a signé le meilleur temps de l'année, qu'il est de retour au premier plan. Mais si on avait fait il y a encore 4 mois la liste des prétendants à la médaille d'or sur 100 mètres à Tokyo, Bromell, il n'aurait même pas été dedans, on ne l'aurait pas mis. Donc peut-être que pour lui, c'est compliqué aussi à assumer, d'autant qu'il y a eu des surprises lors des sélections américaines. Et il se retrouve avec un statut de tête d'affiche, de leader. C'est un drôle de trio américain. C'est trois garçons qui vont vite. Ils ont couru en 9,77, 9,84 et 9,85 cette année. Donc ça va très vite. Ils ont les premiers, troisième et quatrième temps de l'année. Donc ils sont potentiellement, on pourrait avoir un triplé américain. Mais sauf que ce ne sont pas des garçons qui sont habitués à assumer un statut de leader et une pression comme ça. Est-ce que c'était ça aujourd'hui pour Bromell, ou est-ce qu'il a fait une petite erreur ? Peut-être qu'il a voulu en garder beaucoup sous le pied pour dimanche et que ça a failli lui coûter cher, ou est-ce que c'est vraiment le poids de l'événement? Bah, là, on aura la réponse dimanche. En revanche, il y a un garçon qui, à mon avis, lui, a montré déjà depuis très longtemps qu'il n'avait aucun problème avec la pression, c'est André De Grasse, le Canadien. C'est un homme de grand rendez-vous, c'est un homme de finale, il adore ça. Et il a expliqué à plusieurs reprises que même s'il n'avait pas forcément de raison particulière à mettre en avant, les jours de très grande course, il se sent toujours très très bien. Il a signé le meilleur temps des séries aujourd'hui. Je pense que sa meilleure chance, c'est sur 200 mètres. C'est vraiment un coureur de demi-tour de piste. C'est là qu'il s'exprime le mieux. Mais il n'est pas impossible. Il fait partie de ses candidats au titre. Et à mon avis, demain, il faut s'attendre peut-être à ce que ça parte un peu dans tous les sens.
9,91, hein, le meilleur temps pour André De Grasse. C'est le même temps qu'il avait réalisé en finale des Jeux Olympiques en 2016. Il avait obtenu la troisième place du 100 mètres. Voilà, là, il a une carte à jouer en l'absence, évidemment, du Sandbolt. Mais peut-être, tu disais, Laurent, de la tension qui règne au sein du clan américain. Maxime, comment tu vois les choses ?
Je suis d'accord avec Laurent. De Grasse a fait bonne impression et on avait l'impression qu'il avait justement envie de passer un message de sa course parce qu'on a toujours l'habitude de voir des premiers tours où les athlètes ne s'emploient pas plus que ça. Lui, on a senti qu'il y allait à fond et certainement, et il a fini en regardant ses adversaires parce qu'il est au couloir 9, donc le plus à l'extérieur. Il a regardé à sa gauche pour montrer qu'il était bien là. Donc, je pense que lui avait un message à faire passer. Et c'est intéressant ce que tu disais, Laurent, sur la pression, sur les newbies, sur ces grands rendez-vous-là américains. Lui, il connaît déjà ça, donc il sait comment gérer ça. Et pour ce qui est de Brommel, je pense que sur sa course, on n'a pas l'impression que techniquement, il soit à la rue. Non, on a l'impression que comme s'il était écrasé par un poids plus important. Il a couru en 9,77, il a couru en 9,80 cette année. On sait que c'est un miraculé parce que depuis Rio, c'est quasiment que des saisons blanches pour lui. Il avait été blessé au tendon d'Achille et à la hanche. Mais on a eu l'impression vraiment que d'un seul coup, il y avait quelque chose qui le rattrapait aujourd'hui. Donc, on saura plus demain pour sa demi-finale, donc dimanche, où il sera, où il en est, si c'est physiquement ou simplement mentalement. Sa chance, c'est de ne pas être sur le papier dans la demi-finale la plus difficile. Mais en tout cas, là, il n'a plus le droit à l'erreur parce qu'il était dans la série 2, il fait 10-0-5, donc 10-0-5, ça va à peu près, mais il a quand même dû attendre jusqu'à la fin pour savoir s'il était qualifié. Et ça, quand on veut devenir champion olympique du 100 mètres, ça fait un petit peu désordre.
Et c'est ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que normalement, 10-0-5, dans des séries, vous passez tranquillement quand même en demi-finale. Donc, on a une homogénéité là qui est vraiment impressionnante parce que tu l'as dit, Adrien, le meilleur temps de Grasse, donc 9,90 ou 11.
91, ouais.
9,91. Donc, on a beaucoup, beaucoup de garçons qui se tiennent en un dixième et demi, en même pas deux dixièmes. Donc, c'est bien le signe que vraiment, il y a énormément de candidats. Mais il n'y aura toujours que 3 places sur le podium, il n'y aura toujours que 8 places en finale. Et ouais, je pense vraiment à Brommel, il vaut mieux que ça lui arrive aujourd'hui que dimanche, cette crispation, même si ce n'est pas très bon signe quand même, forcément. Mais ouais, vraiment, s'il y a un mot qui résume ce 100 mètres de Tokyo, c'est incertitude, vraiment complète pour moi.
Tu parlais d'un dixième et demi. Ouais, effectivement, il y a 16 centièmes entre le meilleur temps d'André De Grasse et le 15e temps de Jimmy Vico, notre représentant français, 10,07. Voilà, à suivre quand même, Jimmy, même si ça risque d'être compliqué pour rallier...
Son meilleur temps de l'année, quand même.
Ouais, meilleur temps de l'année. Ça ne sera pas évident pour rallier la finale. On rappelle, il y a 3 demi-finales. Les 2 premiers passent directement en finale et ensuite, ce sera les 2 meilleurs temps. Pour régler vos réveils, c'est 12h15. Donc, il n'y a même pas besoin de se réveiller. C'est à 12h15 demain, à la demi-finale.
Si je ne suis pas réveillé, tu appelles chez moi. C'est peut-être que j'aurais eu un problème.
Il y aurait peut-être un problème.
N'hésite pas à appeler. Hein. Mais alors, ouais, pour Jimmy Vico, déjà, ouais. On va dire qu'il fait un moins bon chrono sur le papier que, on l'a dit, Brommel. Mais lui est dans la première série et il passe deuxième. Donc, lui, il se qualifie directement. En revanche, c'est vrai que demain, ça va être plus compliqué. J'ai regardé sa demi-finale. Il est avec Johan Blake, plus forcément, qui n'est plus le Ian Black qu'on connaissait. Il est avec André De Grasse et avec Kerley. Donc déjà, il va falloir se faire une place avec cela. Ça peut être compliqué, mais après, bon, à la bagarre, on ne sait jamais. Mais ce qui est bon, c'est que c'est son meilleur temps de l'année. C'est que, bah, voilà, il le fait au bon moment. Donc, il faut espérer qu'il va passer une bonne nuit et que demain, bah, à la bagarre, il arrivera à accrocher une des places pour la finale olympique.
Il faudra quand même sans doute qu'il descende sous les 10 secondes pour la première fois depuis un petit moment s'il veut rentrer en finale. Mais encore une fois, ça risque de se jouer dans les 3 demi à coup de centième. Sur ce qu'on a vu cette saison et sur ce qu'on a vu plus encore samedi en série, On a du mal à imaginer qu'on ait trois garçons qui volent complètement sur les demi-finales en 9,75 ou 9,80. Le plus probable, c'est qu'on ait même peut-être en finale un podium autour de 9,90. C'est tout à fait possible, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, forcément.
Très bien, messieurs. On suivra ça. Du coup, 12h15, on le disait, les demi. La finale, 14h50. Donc, c'est bien.
Et on réveille.
On réveille pour la sieste. Pour faire attention. Si on s'endort au début d'après-midi, on peut louper la finale. Ça serait dommage. Merci d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et puis nous, messieurs, on se dit à très vite, à demain, pour un nouvel épisode de l'Heure Olympique. Salut.
Salut. Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.